l'ancien ministre de la Santé au Québec, Dr. Gaétan Barrette. Comment allez-vous?
Non, c'est Steve Waterhouse.
Ah, Steve Waterhouse. Ouais. Excuse-moi, c'est Steve Waterhouse. Ouais, Steve Waterhouse, comment ça va?
Il est supposé être là.
Est-ce qu'il est là?
Ah oui.
Ben oui, il est là.
OK, bon.
Le microphone t'a éteint.
Excuse-moi, c'est là je t'ai mêlé dans mon
pain. Oui.
Steve, comment ça va? Expert en informatique, en cybersécurité. Ça va bien?
Bon matin, messieurs.
Oui.
Ben oui.
Bon, là, Steve, moi, j'ai vu passer au cours des dernières semaines, puis on le voit encore la semaine dernière, des grosses saisies, notamment les gouvernements commencent à saisir des crypto-monnaies.
Oui, effectivement, c'est une saisie record d'ailleurs que la GRC du bureau de Montréal ont procédé. Et 56 millions en valeur crypto-monnaie, les plus grosses sommes, ça a été le gouvernement britannique il y a quelques années, de l'ordre de 200 quelques millions en tout cas. Mais ici au Canada, c'est la plus grosse opération. Et oui, tu as raison de dire c'est problématique parce qu'en même temps, les gens sont incertains, veulent faire affaire avec de la crypto-monnaie. Mais l'échange qui ont été saisir, ça fait partie aussi d'activités, disons, louches. Parce que là, l'enquête est toujours en cours. Ils ont saisi des actifs. Ils vont déterminer la provenance, les échanges qui ont eu lieu avec ces actifs-là pour prouver qu'il y a eu, justement, un échange criminel, en quelque part. Et quand on regarde ces types d'échanges-là, lui, ça en est un. Pourquoi il a été ciblé? Sûrement, il y a eu des plaintes, mais surtout, il n'était pas enregistré auprès des autorités financières canadiennes. Et eux autres, cette compagnie-là, qui est Trade Ogre, permet à n'importe qui de s'inscrire sans vérification. Donc, l'anonymisation du client, côté criminel, ben, c'est ça que les gens veulent. Autrement dit, ils ne veulent pas se faire reconnaître, veulent garder être anonyme dans toutes les transactions. Et c'est comme ça que ça anime aussi donc la suspicion et le pourquoi et comment que ça travaille comme échange de crypto-monnaie.
Le gouvernement du Canada a plus d'or. Hein? On a tout vendu notre or et je pense que les crypto-monnaies...
C'est
une très grosse erreur. Mais est-ce que ça se peut que dans les prochaines années, on commence à se bâtir un portefeuille de crypto-monnaies comme aux États-Unis suite à des saisies? Parce qu'on le voit, on voit des gouvernements commencer à se bâtir des portefeuilles en Bitcoin notamment et l'Ethereum. Je sais que le gouvernement des États-Unis s'en va là de façon assez... ils veulent acheter beaucoup, ils veulent se composer une réserve des valeurs. Donc, je pense que le Canada va devoir peut-être emboîter le pas et en saisissant comme ça de la crypto-monnaie des criminels, ben tu peux commencer à te bâtir un portefeuille tranquillement.
Tout à fait. Ça serait peut-être une bonne idée. C'est pas mon domaine particulier là-dessus. Cependant, tu sais, quand j'ai posé la question à des collègues, les actifs présentement demeurent en fiducie, en fidélocommis pour dire, regarde, ça, c'est une preuve. Mais une fois que la preuve aura été présentée en cours, le jugement rendu, si jamais ça se rend jusque-là, parce qu'il faut pas se leurrer. Ça, c'est des enquêtes qui vont prendre des années parce qu'une preuve informatique est quand même complexe à bâtir. Mais une fois que le jugement sera rendu, tu as raison. Est-ce que ça va aller dans la caisse commune qu'on a au Canada? Ça va-tu nous aider à payer des projets sociaux? T'sais? Là-dessus, il y a un flou que c'est pas clair. Où va aller cet élément-là? Ouais. Cependant, au projet d'avoir une crypto avec un portefeuille gouvernemental, je ne sais pas jusqu'à quel point. Il faudrait parler avec des fiscalistes à ce sujet-là parce qu'il y a sûrement des éléments fiscaux importants à tenir en compte. Maintenant, est-ce qu'on veut investir et mettre de l'argent des citoyens dans une monnaie qui est décentralisée, qui n'aura jamais de contrôle par le gouvernement sur cet argent-là? Ça, c'est une autre histoire. T'sais. C'est là que je crois que les arguments vont peut-être se bâtir.
Oui. Ben, de plus en plus, on voit des pays acheter de la crypto. Là. Je pense à El Salvador. Ben oui. C'est a commencé à se bâtir.
Oui, Salvador, c'est juste en crypto, eux autres, qui délient leurs affaires.
Exact. Exact. Eux autres,
c'est peut-être une expérience sociale qu'ils font là-bas, je ne sais pas. Mais demain matin, on est-tu prêt collectivement à s'en aller là puis dire, voici, moi, je m'en vais en vacances. Ah, c'est vrai, je me crée une monnaie virtuelle pour faire mes achats. Tu sais, présentement, dans le monde entier, c'est la carte de crédit qui est dominante. Mais est-ce que ça va changer éventuellement vers un actif de crypto-monnaie? Pas impossible, mais je crois que la table n'est pas mise encore pour ça.
Mais tu as des cartes de crédit crypto, là. C'est-à-dire que tu as une carte Visa,
oui.
Ton compte est en crypto, mais tu passes au magasin comme normal, mais c'est dans ton compte, quand tu payes à la fin du mois, ben, tu payes avec tes crypto-monnaies à Visa, mettons. Là. Donc, on le voit de plus en plus.
Par contre, parce que c'est dans mon domaine, je mets en garde les gens qui veulent tout de suite demain matin se lancer, aller chercher ça, parce que la volatilité de cet échange-là est telle que je vous dirais, au moment de faire un achat, regardez doublement où est rendue la valeur de qu'est-ce que vous allez échanger avec. Je veux dire, quand on part en voyage, on regarde avant de partir, bon, le taux de change est à combien en US versus où est-ce qu'on s'en va là, avec la monnaie d'échange. Mais là, ici, on parle en secondes, en minutes, que ça varie de beaucoup. puis ça peut influencer justement si vous en avez votre argent ou pas.
Ouais. Cyberattaque, on en voit de plus en plus. Là, je sais pas si tu as vu à Joliette, hein, c'est une usine de pneus. C'est quoi la compagnie?
Bridgestone.
Bridgestone s'est fait hacker. Et c'est très difficile de revenir parce que là, les pirates demandent des sommes importantes. Je voyais que c'est Land Rover en Europe aussi, en Angleterre, qui sont à l'arrêt. Là. Donc, on demande de l'argent de plus en plus. Comment on peut contourner ça?
Ben, contourner, c'est un gros mot, par exemple. Mais moi, vous amenez après ça sur ce qui s'est passé en fin de semaine avec les aéroports en Europe, puis ça se poursuit à matin. Là. Fait que, tu sais, Bridgestone, c'est la troisième cyberattaque qu'ils subissent, eux autres. Puis qu'est-ce qui est ironique là-dedans, cette histoire-là? Ça a commencé en mars 2022. Donc, des groupes de cybercriminels qui sont pro-russes et qui étaient donc pour déterminer leurs allégeances à la Russie face à l'invasion en Ukraine. Puis, on a eu l'attaque contre l'aluminerie Alouette à Sept-Îles. Et Bridgestone, ça en a été une deuxième cyberattaque, celle-ci par le groupe de cybercriminels russophones Lockbit 2.0. Fait que l'ironie de l'affaire, c'est que plus loin, en 2023, bien, ils ont été victimes de Lockbit 3.0. Et moi, je suspecte fortement que la dernière cyberattaque en début septembre, bien, ça aurait été Lockbit 5.0. Mais personne ne l'a dit encore. Il n'y a pas eu d'attribution officielle, mais je fais juste une ligne vraiment, tu sais, de cause à effet. Et encore une fois, c'était pour faire quoi? On sait que Bridgestone, c'est un holding, autrement dit, c'est détenu par des intérêts japonais. Et il y a 5 usines à travers l'Amérique du Nord qui ont été impactées par cette dernière attaque. On peut suspecter que c'est les Russes, parce que les Russes et les groupes russophones, pas nécessairement le gouvernement, mais le gouvernement et les groupes qui sont parrainés par celui-ci, ça donne d'aller faire du grabuge économique pour faire mal, justement, aux économies à l'extérieur qui soutiennent l'effort de l'Ukraine, pour après ça les faire changer d'idée. Et je ne sais pas pour la raison derrière, tu sais, c'est peut-être parce que l'hiver s'en vient, on va aller affecter la production de terre d'hiver. Tu sais, je te lance ça. Comme ça, c'est, je ne sais pas. On ne connaît pas la motivation. Par contre, on connaît la motivation ce matin de qu'est-ce qui est arrivé en Europe. Et l'Europe, c'est le dérangement des gros aéroports régionaux qu'on appelle des hubs, donc des points de concentration très importants, Heathrow, Berlin, j'oublie le nom de l'aéroport, mais en Belgique. Ces gros aéroports-là, c'est le système de réservation qui a été dérangé. À tel point que, donc, un système de réservation pour les places dans les avions, le transit des bagages qu'on enregistre.
Ouais.
Et encore ce matin, il y a des centaines de vols qui n'ont pas pu démarrer, n'ont pas pu décoller, c'est-à-dire qui n'ont pas été mis à l'horaire parce que sont dans ce chaos de gestion des voyageurs du matériel. Et là, l'Agence de cybersécurité de l'Europe, le NISA, ont annoncé ce matin, heure d'Europe, qu'on apprend là, que c'est un rançongiciel qui est rentré dans le système de réservation. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un fort probablement qu'il s'en est pas aperçu. Il a cliqué sur un hyperlien, il a rentré la malice à l'intérieur. Moi, au début, je croyais et je crois encore que c'est possiblement une attaque de déni de service. Mais quand on parle de système opérationnel comme ça, qu'il n'y a pas de secondaire, pas de backup, il n'y a pas un système en redondance sur le côté puis qu'il va prendre la relève. Non, c'est des systèmes tellement complexes, c'est très gros, que c'est impossible d'avoir une architecture parallèle. Donc, quand ça arrive, des pannes comme ça, ça paralyse. Et quand on parle d'une paralysie, surtout pour le continent européen, bien, il y en a des effets jusqu'ici, parce qu'il y a des vols à partance de Vancouver, Toronto, Montréal, qui n'ont pas décollé vers l'Europe, parce que justement, à destination, il y a un genre de nuage.
Un blackout, ils savent pas ce qui va aller,
le monde. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est pour dire, t'as raison, et j'en parlais la fin de semaine à deux conférences que j'ai livrées, les genres de situations comme ça, ça va se poursuivre, ça va se continuer. Et quand je faisais mon analyse en fin de semaine pour l'incident en Europe, ça n'a pas passé nulle part dans les médias ici, évidemment, mais il y a eu une cyberattaque contre un site d'un aéroport à Saint-Pétersbourg. Moi, j'ai dit, ni un ni deux, ça se peut fort bien qu'il y ait des autorités russes qui ont dit, « Ouais, ils veulent s'en prendre à notre aéroport, mais check bien ce qu'on fait avec l'Europe. » Paf! Ça aurait été un motivateur logique, typique, qu'il aurait dit, on va s'en prendre, on va lui montrer que si tu veux venir taponner nos aéroports ici, on va être capable de faire la même affaire chez vous. Tu sais, cause et effet de même. Mais là, si c'est vraiment un rançongiciel derrière, ben ça peut être aussi simple qu'un employé qui a cliqué sur un mauvais email, puis ça a donné ce résultat-là. Mais en même temps, ça démontre la faiblesse et l'absence de résilience dans des systèmes qui sont essentiels à la société, parce qu'on peut pas s'en... On peut pas passer à côté. C'est une obligation de passer dans cet entonnoir-là. Mais quand le goulot est étranglé, that's it, là, c'est là qu'on est pogné avec. Et c'est pour ça que je disais aux gens qui étaient à la conférence, préparez-vous lorsque vous voyagez à avoir des plans alternatifs. Autrement dit, si vous voyagez à la minute près, c'est certain, vous allez vous faire avoir dans le détour. Et planifiez déjà un buffer, là, genre une zone tampon de 48 heures et savoir que c'est faire. Ça veut dire avoir 48 heures de plus de médicaments dans ses valises, de sous-vêtements et des choses comme ça. Puis ça m'est arrivé une fois en retour du sud vers chez nous. Puis on s'est fait fermer la porte dans le visage parce qu'il y avait une tempête de neige à Montréal. Fait qu'on est obligé de rester 24 heures en arrière. Mais là, une tempête, c'est une tempête. Mais là, ici, c'est un système informatique, mais qui va prendre 72 heures plus à récupérer puis à remettre en fonction. Fait que c'est un peu dans ce genre d'idéologie-là que attendez-vous dans le futur qu'il va en avoir davantage. Là, ici, on identifie un problème technique. Mais imaginez quand c'est des vieux systèmes comme ça, c'est toujours des couches rafistolées qui gardent ces vieilles affaires-là en fonction parce que ça roule 24/7 depuis 40 ans. Un peu comme les systèmes qu'on a entendus au gouvernement, c'est répandu au gouvernement fédéral, provincial. Il y en a partout de ces vieilles affaires-là. Et quand vient le temps d'échanger, ben c'est là que ça devient une canne de verre puis sont assez gluants les verres dedans.
Ouais, les hackers, souvent, c'est... Tu sais, on parle des Russes, on parle peut-être aussi de la Chine ou encore de l'Ukraine, mais t'as quand même la menace intérieure, là. Hein? T'as des organisations qui sont peut-être au Canada ou à n'importe où, là, qui peuvent attaquer le Canada aussi. Hein, ça vient de partout, là, la possible menace.
Et quand on parle de partout, tu as raison là-dessus, ça vient que c'est des opportunités. Quand quelqu'un dit pourquoi ça s'en prend des systèmes informatiques, c'est soit la rançon, planter une rançon pour avoir un paiement, ça demeure toujours une raison pour eux autres louable. Mais quand tu as des gens de l'interne, donc des employés qui sont reconnus, reçus, et qu'ils ont accès à une manne d'informations, ben, j'irai pas plus loin que l'exemple avec Desjardins de 2019.
Ouais.
Il y avait les... Il gérait le plat de bonbons, c'est pas compliqué. Il avait les mains dedans et il était capable d'en distribuer comme il voulait. Fait que c'est un peu ça qui est la menace à l'interne. Et maintenant, lorsqu'il y a on parle du rançon logiciel qui a frappé là, je donne l'exemple de la Société de transport de Montréal, la STM, en 2017-2018, l'année m'échappe, mais que c'est un employé qui a cliqué sur un courriel qui provenait de son concessionnaire automobile, Acura Laval, pour le nommer, et qu'elle était à confiance. Elle a dit, ben oui, c'est mon concessionnaire, il y a sûrement quelque chose à me passer. Mais les pirates avaient... hacké, il avait piraté le concessionnaire. Puis là, ils ont vu que c'est un employé de ce système de transit. Et pourquoi s'en prendre un système de transit public?
Ouais.
Ben, c'est l'urgence d'agir parce que là, tu paralyses une économie puis tout le monde dans la société. Fait que c'est ça qu'on parle de cibles stratégiques qui vont faire en sorte qu'ils vont aller faire abdiquer. Les hôpitaux, les écoles, etc., c'est toutes des places que les pirates vont aller scruter avant tout. Puis après ça, ben le chaos s'en répand. Certaines organisations qui sont pas prêtes, la STM était prête, eux autres, puis ça a pris plus de temps à vérifier s'il n'y avait pas des conséquences secondaires que remettre les systèmes en fonction. Ça a duré 6 semaines. Mais il reste toujours bien que ça vient nous déranger. Notre transformation numérique de société, en l'absence d'une résilience forte, ben c'est ça que ça donne.
Ça vient partout. À chaque matin, la menace est partout. Ben, c'est ça.
Ben oui, puis je le dis souvent, tu sais, ça tient de la broche puis du tape, puis c'est une réalité avec laquelle, là, ça nous frappe quand ça lâche, puis reprendre de ça, puis dire, ben pourquoi on le fait pas, on le bâtit pas de façon plus résiliente, pourquoi on les fait pas mieux, ces affaires-là? Ben c'est parce qu'il faut tenir compte du passé. Puis tout le monde, quand j'entends parler, tu sais, on parlait de l'année dernière d'identité numérique et tout ça, l'Estonie. En estime, l'Estonie, eux autres, ils l'ont fait, puis ils vivent avec cette transformation numérique, l'identité numérique, le vote électronique, etc. Ils sont fantastiques. Ouais, mais l'Estonie, eux autres, là, ils ont recommencé à zéro. Post-ère soviétique, ils ont fait un zérotage de leur société.
Ils ont fait un shutdown. Ils ont tout mis à zéro, là. Ils ont tout reparti. Là.
Exact. Ils ont rasé tout ça, là, puis OK, on rebâtit notre société comment? Facile en tabarouette. Fait que si on voudrait faire la même chose ici, ben il faudrait que ça soit facile.
Ben on le voit, à SAC, là, tu sais, il y a des vieux systèmes de 60 ans. Puis là, les données, comment t'arrimes tout ça, c'est pas facile à faire. Là.
Ben, les données, c'est pas pire. C'est juste l'interprétation des données. Parce que quand ça a été bâti avec un autre langage, une autre époque, et en faire la traduction à un système moderne, c'est là que le bas blesse.
Exact.
Parce que, t'as plus personne de l'ancienne génération qui savait comment ça marchait. COBOL, Fortran, juste nommer ces deux-là.
COBOL.
Des langages de programmation. Oui, ça date. Puis là, après ça, t'amènes ça dans le monde moderne, là, avec du Python, avec du JavaScript. Tu sais, c'est deux mondes complètement séparés. Puis... tout le monde souhaite, évidemment, que ça marche le lendemain que tu le mets en fonction. Il peut y avoir des problématiques, mais déjà de préparer ça à l'avance, c'est ultra complexe. Puis quand que j'étais dans le bug de l'an 2000 par-dessus les oreilles, on avait de ces problématiques-là, justement, de revoir la programmation des fameuses dates que tu peux plus avoir, 99 moins 00 moins 99, ça donne moins 1, puis en informatique, c'est une impossibilité. C'est ça qui a été le problème, le fait d'avoir des systèmes qui vont tout savoir correct, puis ça fonctionne bien. Puis ça a coûté cher pour ça, parce que ça a pris des gens qui étaient à la retraite, des convaincre de revenir travailler, tu sais, puis qui se remettent dedans. C'est là qu'on en est avec les vieux systèmes. Fait que demain matin, vous checkez bien ça, je vous le dis, le système des pensions fédérales, en décembre 2023, le vérificateur général du Canada, il l'a dénoncé. Le système des pensions, le système d'assurance chômage, c'est des systèmes de 50 puis 40 ans. Et c'est les prochains, eux autres, qui sont en train de les réparer. Mais c'est drôle, quand on regarde les états de situation de ces systèmes d'information-là, sont toujours, autrement dit, ils pèlent en avant le problème depuis 25 ans. Ils le savent. Mais c'est jamais important. Fait que, on va se retrouver demain matin, ça va être un autre fiasco, comme le Phoenix, comme ça clique.
Ouais.
Puis
on s'en va là. On va se demander. Ben, oh, oui, c'est le prochain scandale, ça. Là.
Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais c'est une évidence même.
Steve Waterhouse, tu ne dois pas manquer de job, j'imagine.
C'est temps-ci. Ben, comme tu m'entends, le verbatim est assez facile parce que justement, c'est autour de nous et il faut vraiment faire le travail de fond pour faire le vrai du faux. Puis tu sais, comme je vous mentionnais aussi, en terminant, je veux juste mentionner deux situations qui sont arrivées avec les institutions
rapidement,
financières.
Oui, rapidement, parce qu'on doit filer.
Oui. Desjardins et la Banque nationale du Canada ont eu justement des tentatives de, je vais le dire de même, d'extorsion, en faisant publier des faux recueil d'informations volées prétendument chez ces institutions-là. On a entendu brièvement de la banque, de la BNC, il y a eu des reportages là-dessus, et il y en a un qui est resté néant dans le background, autrement dit, par Desjardins. Et c'est là qu'il faut faire la distinction entre c'est-tu un vrai hack, c'est-tu une vraie piraterie d'informations, ou bien c'est un amalgame, puis que là, les pirates font ça. C'est
on
le
sert
jeu,
de ça de montrer, frauder, effectivement, là, c'est ça. Là.
Ben oui, puis essayer de faire croire, regarde, on était chez vous, puis on a pris des informations, puis là, payez-nous, parce que sinon, on met ça public.
Ouais.
Ben après enquête, après détermination, puis je les ai vus, les informations, tu sais, c'était du n'importe quoi. Fait que c'est pour ça que faut prendre notre gaz égal, faut prendre le temps de vérifier tout ça, parce qu'il y en a du brouillard puis de l'interférence à travers toutes ces nouvelles. Et c'est par contre, faut le faire vite, puis il faut le faire bien. Et comme ça, on va être rassuré, mais comme tu dis, c'est pas demain la veille que ça va arrêter.
Steve Waterhouse, merci beaucoup. Expert cybersécurité. On se reparle. Salut.
Salut, bonne journée.
Bye-bye. Voilà, Steve Waterhouse.
C'est fou à quel point les systèmes sont désuets.
Des faux. Ouais, mais t'as-tu ça? Des fausses attaques simulées auprès de Desjardins. Puis là, tu dis, ouais, mais finalement, c'est faux, mais on essaie de les hacker pareil.
C'est incroyable. Ouais, c'est ça.
Fait que là, t'as du faux, t'as du vrai, t'as de l'intelligence artificielle là-dedans. Voilà, hey, après la pause, là, c'est le vrai, là.
Oui.
C'est Gaétan Barrette qui débarque dans le show.
Couture. On fait une petite pause, puis on revient dans pas longtemps.
Dans le mid. Radio-X.